franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. La fin des blocages en Guyane, un protocole de sortie de crise a été signé entre le gouvernement, les élus et le collectif qui prévoit le versement de 2 milliards supplémentaires mais sans calendrier précis. Un barrage reste en place devant le centre spatial de Kourou où le PDG d'Ariane Espace sur France Inter ce matin espère un rapide retour à la normale. Il estime le coût des blocages à 500 000 euros par jour. Le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle en Outre-mer. Le scrutin est ouvert aux Amériques en Guyane justement. Aux Antilles et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En métropole, ce sera demain, sous haute sécurité. Ce matin, la garde à vue des deux hommes arrêtés à Marseille en début de semaine a été exceptionnellement prolongée. Dans ce journal également, l'attaque meurtrière d'une base militaire afghane par les talibans. La Tunisie en panne de réforme, 6 ans après la révolution et alors que le tourisme repart. C'est le droit de suite de ce samedi 13h. Avec aussi Lucas Pouille en demi-finale à Monte-Carlo tout à l'heure. Et la prescription culturelle du week-end qui sera signée Stéphane Capron. La fin d'un mois de blocage en Guyane, un accord de fin de conflit a donc été signé hier soir entre l'État, les élus et le collectif représentant les syndicats et les associations. Le gouvernement a pris acte des revendications mises en avant depuis un mois maintenant, notamment du versement de 2 milliards d'euros supplémentaires pour les communes, les services de santé ou le système scolaire. Aucune promesse précise, aucun calendrier, mais l'assurance que cette somme fera l'objet d'un examen prioritaire. Ce qui semble satisfaire le collectif, Béatrice Duguay.
Le collectif pour que la Guyane décolle estime effectivement avoir gagné. Soulagement recueilli par nos confrères de Guyane Première devant la préfecture de Cayenne hier soir.
Heureux, parce qu'on ne pensait pas que ça arrivait jusqu'au bout. Et pour la Guyane, oui, enfin, on va décoller.
Maintenant, je dis qu'il faut quand même rester vigilant pour que les choses soient vraiment actées, pour qu'il puisse y avoir une continuité avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place.
Car pour être tout à fait franc, les 8 pages de l'accord présentent peu d'évolution par rapport aux premières propositions ministérielles d'il y a 3 semaines. Actée donc la construction de collèges et de lycées, celle de la cité judiciaire à Cayenne, le renfort de forces de l'ordre ou encore la cession de foncier gratuitement, notamment 400 000 hectares pour les peuples autochtones. Pour ce qui est des 2 milliards supplémentaires réclamés, c'est plus subtil. L'État s'engage effectivement à ce que ces mesures fassent sans délai l'objet d'un examen prioritaire. Subtilité qui n'échappe pas à Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, joint par Philippe Randé.
Maintenant, c'est plus la peine de maintenir une crispation. Mieux vaut attendre et préparer ce livre blanc pour discuter avec le nouveau président de la République, pour que nous puissions donc obtenir le reste, c'est-à-dire les 2 milliards qui sont indispensables à la Guyane. Il faudra maintenant relancer les négociations, taper un petit peu également de l'Europe pour voir comment on peut augmenter nos crédits et surtout avec la France, qu'elle ait un autre regard de façon à donner à la Guyane cette vitrine, on va dire départementale, en territoire amazonien et sur un continent sud-américain.
Réflexion partagée par David Riemann, le porte-parole du collectif qui a signé l'accord hier. Le travail ne fait que commencer, reconnaît-il.
Et pour tout savoir sur cet accord, voir le site franceinter.fr. Les barrages ont donc été démontés à Cayenne et dans sa périphérie, pas à Kourou où l'entrée du centre spatial reste bloquée par des militants qui veulent acter un point de l'accord par écrit et demandent donc un courrier à Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Quoi qu'il en soit, c'est un mouvement qui se termine et c'est pas trop tôt pour Ariane Espace dont le PDG Stéphane Israël était ce matin l'invité de Marion Lourd dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
C'est d'abord une très bonne nouvelle pour la Guyane. Plus d'un milliard va être débloqué très très rapidement pour construire des ponts, des routes, soutenir le budget de la collectivité locale. Tous sont signés, donc maintenant effectivement les choses vont rentrer dans l'ordre ce week-end. Et évidemment aussi une bonne nouvelle pour Ariane Espace.
Bilan de ce mois de crise pour vous, Stéphane Israël, ça a coûté combien ?
Alors, il est encore trop tôt pour faire les comptes définitifs, mais il est certain que le coût de ce mois va être élevé. Il faut le dire prudemment, mais on peut dire que ça a pu coûter jusqu'à 500 000 euros par jour à Ariane Espace et à l'ensemble des partenaires de la base. Évidemment, comme toutes les entreprises, nous devons veiller à la qualité de nos relations avec notre environnement, avec les élus qui sont des partenaires au quotidien. Et nous pouvons réfléchir avec l'ensemble des entreprises de la base à la façon dont nous consolidons nos liens avec le territoire. Nous, peut-être, tous ensemble, pouvons nous faire davantage, dans un contexte néanmoins de très très forte pression concurrentielle sur Ariane Espace et les entreprises qui travaillent pour elle.
La base de Kourou emploie 1700 personnes et en fait travailler indirectement 9000. Les Guyanais qui votent aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle, comme les Antillais ou les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, décalage oblige. Demain voteront, plutôt qu'en métropole, les Outre-mer situés à l'Est, dans un contexte très différent de l'Hexagone où le terrorisme s'est réinvité dans la campagne jeudi soir. Pas moins de 50 000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés demain toute la journée pour la protection des bureaux de vote, sans compter les polices municipales et les agents de sécurité privée, comme à Nice, où dès l'annonce mardi d'un attentat déjoué à Marseille, la ville annonçait un renforcement de son dispositif. Maxime Baquier.
En plus des policiers municipaux déjà mobilisés, la ville va déployer des agents de sécurité privés devant les 292 bureaux de vote. Elle va mettre aussi entre les mains des présidents de ces bureaux un bouton d'alerte pour signaler très vite au centre de supervision de la ville toute situation anormale. Un dispositif qui rassure les Niçois qui, de toute façon, comptent bien aller voter malgré ce contexte.
C'est pas ça qui va nous empêcher d'aller voter, au contraire.
Si on a peur, on fait plus rien. Donc autant aller voter et exprimer ce qu'on pense.
J'irai voter même s'il y avait des attentats. Il y a une petite crainte, mais alors on peut plus rien faire sinon.
On va pas non plus s'enfermer chez soi et puis plus vivre non plus. Hein.
Il n'y a pas qu'à Nice que la sécurité sera renforcée. La préfecture a mobilisé toutes les forces disponibles pour protéger chaque bureau de vote dans chaque commune. Elle a aussi laissé des consignes très claires. François-Xavier Loche est le directeur de cabinet du préfet.
Les présidents des bureaux de vote ont été particulièrement sensibilisés à la nécessité que les files d'attente, s'il y en a, soient à l'intérieur du dispositif et de la zone Vigipirate en sécurité. Puis également, nous aurons une vigilance toute particulière sur les véhicules stationnés à proximité. Il y a des interdictions de stationnement qui ont été prises à proximité des bureaux de vote et ces véhicules seront systématiquement enlevés.
Des consignes qui seront reconduites pour le second tour.
Dans l'enquête sur l'attentat de jeudi soir sur les Champs-Élysées qui a coûté la vie au policier Xavier Jugelet, le procureur de Paris, François Molins, a donné quelques précisions sur l'assassin Karim Cherfi, tué par la police. Un Français de 39 ans, connu des services de sécurité. Il était sous le coup d'un contrôle judiciaire visé par une enquête du parquet antiterroriste de Paris pour avoir proféré des menaces en direction des policiers, mais aucun signe de radicalisation n'avait été repéré, ni aucun projet d'attaque. Ses précédents condamnation n'avait aucun motif terroriste. Reste à comprendre comment sa dangerosité a pu passer inaperçue. Et puis ce matin, la garde à vue des deux suspects arrêtés à Marseille en début de semaine a été prolongée, ce qui est exceptionnel. Clément Bord et Mayedine Merabet, 23 et 29 ans, sont suspectés d'avoir projeté un attentat qui semblait imminent. Ils ont pour l'instant gardé le silence devant les enquêteurs. En Allemagne, deux policiers blessés ce matin dans une manifestation anti-AFD, le parti anti-migrants, qui tient son congrès à Cologne. 50 000 manifestants se sont mobilisés pour proclamer leur refus du fascisme. La situation semble tendue dans plusieurs quartiers de la ville où une voiture de police a été incendiée. Et puis au moins 150 morts en Afghanistan. Le bilan de l'attaque hier d'une base de l'armée afghane par les talibans s'est encore alourdi. Il semble qu'un commando déguisé en soldat se soit introduit dans la base avant d'ouvrir le feu, Sonia Ghezali.
Des hommes lourdement armés, en uniforme, dans des véhicules militaires, arrivent à la base de Balkh en début d'après-midi. C'est ce qu'ont confié les premiers témoins aux médias. Il est alors environ 14h lorsque le commando lance l'assaut. À cet instant, les soldats du 209e corps d'armée d'Afghanistan sont en grande partie en train de prier dans la mosquée de la base ou au réfectoire, finissant leur déjeuner. Et c'est là qu'ils seront pris en tenaille par les assaillants. Une dizaine d'hommes qui tiendront durant près de 5h jusqu'à ce que les forces spéciales afghanes en viennent à bout. Sept insurgés sont abattus, deux autres sont morts en se faisant exploser. L'un d'entre eux est arrêté, affirment les autorités. En visant la base de Balkh, l'une des plus importantes du pays, les talibans, qui devraient lancer sous peu leur offensive de printemps, en intensifiant les attaques contre des cibles gouvernementales, ont encore montré l'étendue de leurs forces de frappe. Kaboul, Sonia Ghezali, RFI pour France Inter.
C'était il y a 6 ans, sur la rive sud de Méditerranée, les printemps arabes faisaient naître un grand espoir dans plusieurs pays, à commencer par la Tunisie, où le dictateur Ben Ali avait pris la fuite en janvier. S'en suivirent, 3 ans plus tard, une nouvelle constitution, des élections libres, et la société civile tunisienne récompensée par le prix Nobel de la paix, Qu'en est-il aujourd'hui? La Tunisie, frappée à plusieurs reprises par le terrorisme, s'est enfoncée dans la crise et les difficultés économiques se sont encore accrues. C'est le droit de suite de ce journal avec Justine Fontaine à Tunis.
Sur l'avenue Bourguiba, en plein centre-ville de Tunis, quand on parle de révolution, presque 6 ans et demi après, c'est la déception qui domine.
2011, on a dit c'est le paradis pour l'avenir, mais maintenant je ne vois pas le bout du tunnel, voilà. Ça va pas du tout, non ?
Selon l'Institut tunisien de la statistique, le pouvoir d'achat moyen a baissé de 40% entre 2010 et 2015 et le chômage dépasse aujourd'hui les 15,5%. Ces dernières semaines, des protestations sociales ont d'ailleurs éclaté dans plusieurs régions. Alors selon Redouane Ergueb, membre du think tank Joussour, la situation économique est bien l'enjeu du moment en Tunisie.
C'est le grand défi maintenant et ce défi économique peut même menacer la transition démocratique. Et les mouvements sociaux actuellement, c'est la Tunisie délaissée par l'État. Et le grand problème, c'est que ces gens-là ne voient pas de feuille de route claire qui leur donne de l'espoir.
Si les Tunisiens ne voient pas assez de changements positifs, c'est aussi car depuis 6 ans, les exécutifs locaux sont restés aux mains de fonctionnaires sans réel pouvoir. Mais pour la première fois depuis 2011, les citoyens pourront choisir le maire de leur ville en décembre prochain. Chaïma Bourlel, présidente d'Al-Baoussala, une ONG qui analyse le travail du Parlement et des institutions politiques en Tunisie.
On espère vraiment que ces élections municipales seront non seulement essentielles pour mettre en place des exécutifs locaux, mais aussi qu'elles puissent rétablir la confiance dans l'idée selon laquelle la démocratie part du niveau local pour aller jusqu'au niveau central.
Le rendez-vous a été fixé au 17 décembre, très exactement 7 ans après l'immolation de Mohamed Bouazizi, considéré comme le déclencheur de la révolution. Tunis, Justine Fontaine, France Inter.
En ligne de Tunis avec nous, Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La révolution tunisienne, c'est celle qui s'est le mieux terminée. Elle reste la référence des printemps arabes. Pour autant, elle a beaucoup déçu les Tunisiens, semble-t-il, en tout cas les classes populaires qui ne vivent pas mieux qu'avant.
Oui, tout à fait. Disons que si la transition politique est relativement réussie, que la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée avec l'actuel gouvernement, le grand défi reste bien entendu la situation économique et sociale, d'où la vague de protestations pratiquement dans toutes les régions de l'intérieur de la Tunisie. La Tunisie profonde, elle bouge et il y a des coordinations régionales de la société civile et des gens réclament. Ils reprennent le slogan de la révolution, ils réclament du travail, de la dignité et le développement de leur région.
Mais alors pourquoi les réformes économiques n'ont-elles pas été faites? Qu'est-ce qui bloque?
Alors qu'est-ce qui bloque les réformes? Ce qui bloque les réformes, c'est la lenteur de l'administration, d'où l'urgence, je pense que le gouvernement est conscient de ça, d'où l'urgence de réformer l'administration. Ce qui pose problème également, c'est la question foncière, la question des terrains, dont la propriété n'est pas encore définie, terrain de l'État, terrain des collectivités, terrain privé, etc. Et ce qui pose problème, donc, c'est une manière de raisonner, une manière de travailler qui appartient à l'ancien régime et qui reste dominante. D'où l'urgence à la fois de réformer l'administration, mais également de contenir la masse salariale de l'État. L'État continue de dépenser trop de salaires et également, comme le recommande la Banque mondiale et le FMI, élargir l'assiette fiscale. Il faudrait une véritable réforme fiscale pour accroître les dépenses et l'investissement, bien entendu.
Alors, est-ce que les islamistes sont perçus comme un recours en Tunisie?
Les islamistes, vous savez, les islamistes, il y en a plusieurs. Il y a les islamistes du parti Nahda, ils sont partenaires du gouvernement, ils sont dans le gouvernement. Et à mon avis, ils ne présentent pas de danger, hormis bien entendu les islamistes radicaux, les djihadistes. Là, ils représentent bien sûr une menace pour la sécurité et l'ordre dans le pays.
Alors cette semaine, Mohamed Kérou, l'hôtel de Port El Kantaoui, près de Sousse, qui avait été visé par un attentat en juin 2015, il y avait eu 38 touristes tués. Cet hôtel a rouvert ses portes. Est-ce que le tourisme repart?
Oui, il y a une croissance, il y a des attentes pour que l'industrie touristique reprenne, bien entendu. Il y a aussi des attentes, il y a la situation de l'agriculture est en train de s'améliorer, les services également, il y a une légère reprise, le taux de croissance reste de 1,1%, on s'attend à ce qu'il soit à la fin de l'année, pour l'année 2017, je veux dire, qui sera de 2,3% selon les pronostics de la Banque mondiale et de 2,5% selon le gouvernement. Mais ça reste insuffisant pour résorber le chômage, pour investir et pour relancer réellement l'activité économique. La Tunisie, c'est 6% sous Ben Ali, il ne faut pas l'oublier.
Mohamed Kérou, professeur.
Donc, je veux dire,
merci beaucoup, Mohamed Kérou, professeur de sciences politiques en ligne avec nous de Tunis. Mais la liaison n'est pas très, très bonne. En tennis, peut-être enfin l'heure de Lucas Pouille, qui jouera tout à l'heure sa deuxième demi-finale d'un Masters 1000 à Monte-Carlo. Son adversaire, 24e joueur mondial, l'Espagnol Ramos Vinolas, est à sa portée. Lui aussi, inattendu d'ailleurs à ce niveau, comme le Belge Goffin, qui lui, malheureusement pour lui, sera opposé au nonuple vainqueur du tournoi et tenant du titre, Raphaël Nadal. Quoi qu'il en soit, pour le Français, c'est une confirmation à un mois tout juste de Roland-Garros, Fabrice Abgral.
Après les forfaits sur blessure de Monfils et Gasquet et les éliminations prématurées de Tsonga et Simon, tous les regards se sont automatiquement tournés vers Lucas Pouille. Le nordiste se savait attendu à Monte-Carlo et il a été à la hauteur de son statut de 17e mondial et numéro 3 français. À 23 ans, Lucas Pouille sait déjà qu'il a un rôle à jouer dans le tennis et l'attente qu'il suscite ne le dérange pas.
C'est positif d'avoir de l'attente, ça veut dire qu'on a eu des bons résultats et que les gens pensent qu'on peut faire de belles choses. Le contraire serait plus embêtant, ça voudrait dire que les gens ils s'en foutent un peu, donc je suis content qu'il y ait de l'attente et je prends vraiment le côté positif.
Lucas Pouille s'est véritablement révélé l'an passé en atteignant les quarts de finale à l'US Open et à Wimbledon. La saison dernière, le nordiste a ouvert aussi son palmarès en remportant le titre à Metz. Julien Bouter, l'organisateur du tournoi, a été bluffé à l'époque par l'homme et le joueur.
C'est un gamin qui est super bien éduqué, qui donne beaucoup. Physiquement, il a de belles qualités, il est travailleur, il a beaucoup d'humilité. Pour l'instant, je vois pas trop de limites pour aller chercher des grands chelems. Ouais.
Lucas Pouille vise aujourd'hui sa première finale en tournoi Masters 1000. S'il y parvient, le nordiste deviendra le 4e français à atteindre ce niveau en principauté. Monte Carlo, Fabrice Abgral, France Inter.
Lucas Pouille contre Ramos Vinolas, c'est à partir de 13h30 en foot, un petit air de déjà vu. Le PSG qui se déplace à Barcelone pour la Ligue des Champions, ce soir à 18h, demi-finale dames, bien entendu, et l'occasion pour ces dames de venger les garçons. Dans l'autre demi-finale, des Françaises aussi, les Lyonnaises, tenantes du titre, joueront sur le terrain de Manchester City, peut-être donc à la clé une finale franco-française. En cyclisme, la mort de Michele Scarponi, le vainqueur du Giro, le Tour d'Italie 2011. Il a été percuté ce matin par un camion pendant une séance d'entraînement à Filotrano, près de son domicile en Italie. Scarponi de l'équipe Astana avait 37 ans. Allez revivre la Commune de Paris par le prisme du jazz. C'est un spectacle musical qui s'appelle La Chose Commune et c'est la prescription culturelle de ce samedi. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Yves.
C'est un spectacle que l'on peut voir à l'espace Cardin à Paris, mais c'est aussi un album qui regroupe 13 chansons.
C'est un voyage dans une période très courte finalement de l'histoire de France, parce que la Commune, ça n'a duré que 3 mois au printemps 1871, mais c'était une période très riche. La Commune, ça a été un laboratoire d'idées progressistes en matière de laïcité, pour l'émancipation des femmes, en matière du droit de la presse ou du droit du travail. C'est ce qui a intéressé l'auteur David Lescoux.
La grande affaire de la Commune, ça a été par exemple le travail, échapper aux organisations patronales, vendre soi-même le produit de son travail, supprimer les intermédiaires, inventer des formes d'union, d'association. Aujourd'hui, je pense que dans ces expériences et dans ces aventures, il y a des exemples, il y a des thèmes qui reviennent, il y a des échelles aussi d'organisation sociale et de vie qui nous inspirent, le quartier, voilà, peut-être des échelles plus petites, des cellules plus petites, mais qui ont vocation à s'unir les unes aux autres. Peut-être qu'il y a des choses à méditer pour aujourd'hui.
Tous les titres de ce spectacle ont été composés par Emmanuel Bex. Il a notamment réorchestré Le Temps des Cerises.
Le Temps des Cerises a été composé avant la Commune. Alors, si c'est emblématique, c'est parce que sans doute les gens la chantaient à ce moment-là. C'est peut-être la seule, parce qu'après, les autres chansons, elles ont été composées a posteriori. Donc finalement, c'est ça qui est peut-être touchant dans Le Temps des Cerises. Les paroles sont a priori déconnectées de la violence du combat, mais d'une manière subliminale, dans notre culture collective, c'est resté comme l'emblème de la Commune. Oui.
La Chose Commune, c'est jusqu'au 29 avril à l'Espace Cardin, à Paris également, en tournée en France, notamment cet été, à Jazz in Marciac. D'autres idées pour ce week-end, Stéphane?
Eh bien, toujours de la musique.
Ah bah oui.
Le Printemps de Bourges, basson plein en ce moment. Au programme ce soir, Lady Sœur, le duo composé de Rachida Brakni et de Gaëtan Roussel. Et puis, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, la scène musicale a ouvert hier soir en fanfare avec Bob Dylan. Suite ce soir avec l'inauguration de l'auditorium. Ce sera très éclectique. Il y aura du classique avec l'Insula Orchestra. C'est l'orchestre résident dirigé par Laurent Sekilbé. Et puis, deux représentants de la scène électro, The Shoes et The Avener.
The Avener, un groupe français comme son nom ne l'indique pas.
Merci à vous Yves Decor, nous vous retrouverons ce soir pour le 19h.